Je m'appelle Hugo et je viens juste de rentrer de 10 mois en Asie où j'avais pour projet de faire un transport différent par pays. Et du coup là, je vais vous raconter le Cambodge à pied, qui a été peut-être l'expérience la plus dure de ce voyage.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Hugo nous raconte le Cambodge. Avec lui, on a parlé de karaoké, de bienveillance et de la dimension thérapeutique du voyage.
J'ai bourlingué à travers le monde. Le pays juste avant le Cambodge, c'était le Vietnam. J'avais redescendu tout le Vietnam à moto. J'étais à Ho Chi Minh. Je me rapprochais de la fin de mon voyage. Du coup, j'avais plus beaucoup d'argent. Et j'avais dans la tête, en fait, de traverser un pays à pied. Et le Cambodge, c'était parfait parce que c'était le plus petit pays d'Asie du Sud-Est. Du coup, je me suis dit que ça serait le pays parfait pour tenter ça. Du coup, j'ai commencé à acheter ma tente, quelques équipements dans les surplus militaires et tout ça à Ho Chi Minh, un peu tout ce qu'il me fallait pour cette aventure. Et j'ai commencé à faire mes recherches un peu sur internet et tout. Normalement, j'y vais un peu à l'arrache, j'organise rien. Je me suis dit quand même à pied, je vais essayer de faire le mec un peu sérieux et d'organiser ce qu'il fallait, trouver les informations qu'il fallait sur internet. Le truc, c'est que j'ai pas réussi à trouver d'informations sur internet de gens qui avaient traversé à pied. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est des gens qui disaient mec, t'es complètement fou, c'est trop miné le Cambodge, faut pas marcher. Du coup, au début, j'ai un peu hésité à faire cette expérience et je me suis dit, je vais peut-être annuler tout parce que j'ai pas envie de me faire sauter par une mine. Mais au final, je me suis dit, bon, je vais tenter le truc, mais quand même en faisant gaffe, sans faire trop le con. Et je me suis dit, je vais suivre la route principale qui passe par Phnom Penh jusqu'à Siem Reap, donc au temple d'Angkor, et jusqu'en Thaïlande. En fait, mon projet de base, c'était vraiment de démarrer de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Et d'aller jusqu'à la frontière thaïlandaise. Bon, en fait, clairement, je m'étais complètement surestimé. Je m'étais pris pour Superman. Parce que c'était aux alentours de, je dirais, 1500 km, 1200 km. Sachant que j'avais qu'un mois, c'était impossible. Donc, je m'étais un peu surestimé. Et en fait, un coup du destin a fait que ça a changé mes plans. Et c'est pas ce que j'ai fait, heureusement, parce que j'aurais pas pu y arriver sinon. Donc en fait, j'ai pris un bus de Ho Chi Minh qui devait d'abord juste me déposer à la frontière avec le Cambodge. Et après, je devais commencer à marcher pour me diriger jusqu'en Thaïlande. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'ai traversé la frontière, j'avais overstay. En fait, j'étais resté 2 jours de plus que mon visa au Vietnam. Et quand j'ai voulu traverser la frontière, au début, ils m'ont dit que je pouvais pas traverser parce que j'avais overstay de 2 jours. Et si je voulais traverser, il fallait que je paye 30 dollars. Bon, je m'étais mal organisé, j'avais pas d'argent sur moi. Enfin, j'avais de l'argent que pour le visa, mais pas pour les 30 dollars de plus pour payer l'overstay. Du coup, le Vietnamien dans le bus, le conducteur m'a dit, bon, je t'avance et tu me rembourses quand on arrive à la frontière. Donc, il m'avance les 30 dollars. Et quand on arrive à la frontière, je me dirige vers un ATM pour retirer de l'argent et le rembourser le mec. Et là, bam, ma carte est bloquée. Impossible de retirer de l'argent. Il faut savoir qu'il faut jamais devoir de l'argent à des Vietnamiens. Les Vietnamiens sont complètement fous avec l'argent. Donc le mec a commencé un peu à péter un câble et tout, à me dire ah non, je veux mon argent dessus, tout ça. Je me suis un peu retrouvé dans la merde. Et du coup, je dis bon, ok, au final, je descends pas à la frontière, je descends à Phnom Penh. On arrive à la capitale et tout. Le mec m'arrête un ATM. Il me dit bon, maintenant, tu retires direct, tu me donnes l'argent direct. Mec, il voulait pas attendre 5 minutes. Et il me dit, bon, tu me rembourses l'argent direct. J'essaie de lui expliquer que ma carte est bloquée, je peux pas, il faut que je fasse un Western Union. Bon, là, c'était la première fois de mon voyage où j'étais à 2 doigts de me retrouver en embrouille avec un Vietnamien, quoi, parce que le mec avait mon passeport, avait gardé mon passeport, en fait. Et il commence à courir avec mon passeport pour rentrer dans le bus et, en fait, se barrer avec mon passeport. Donc, moi qui me retrouve à courir après le mec, à dire, à forcer les portes du bus et tout, à me retrouver en face à face avec lui dans le bus. Et du coup, au final, un Français hyper sympa qui m'avait vu avancer l'argent. Donc ça fait que j'ai pu régler le problème et tout. J'ai réglé le problème avec ma carte. Et du coup, je me suis retrouvé donc à Phnom Penh et pas à la frontière où de base je devais démarrer. Je suis resté, je crois, 3 jours à Phnom Penh, un peu de repos avant de commencer l'aventure. Et là, je prépare mon sac avec tout l'équipement. Donc c'est-à-dire que j'avais la tente, j'avais le sac de couchage, j'avais de la nourriture au cas où, les gamelles, les affaires, enfin, etc. Je commence à préparer le sac, puis je commence à porter le sac, et puis là je me dis, oh là, ça va être long. Je mets le sac sur mes épaules, et puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que le sac devait peser
à peu près 18 kilos, quoi. Puis moi, je fais 1m67. 18 kilos, bon, le sac, il faisait la moitié de ma taille, la moitié de mon poids. Je me suis dit, merde, ça va pas être facile. Et donc là, j'étais donc en plein centre de la capitale. Et je démarre le matin, je prends mon sac à dos et je commence à marcher. Donc, je traverse la capitale à pied. Déjà, au bout de quelques kilomètres, je commence à sentir les jambes qui font mal. Et je me dis, ça va être long, ça va être long. Donc je marche. Et je suis la route principale qui devait me mener jusqu'à Siem Reap, qui était donc la destination finale. Parce qu'au final, en un mois, je me suis dit que j'aurais pas le temps d'aller jusqu'en Thaïlande. Il fallait que je m'arrête à Siem Reap. Donc le point final, c'était les temples d'Angkor. Ça faisait donc à peu près 350 km, je dirais, de Phnom Penh, 350 km, en suivant la route principale sans détour. Donc je commence à marcher. Je m'étais dit qu'il fallait que je marche à peu près 15 km par jour, si je voulais bien avancer, sans jour de pause. J'avais pas le temps, j'étais un peu pressé par le visa. Donc je marche et j'avais ma tente, j'avais un peu repéré où est-ce qu'il y avait des guest house. Aux environs, il y avait une guest house tous les 40-30 km, je dirais. Donc ça faisait qu'il y avait forcément des jours où j'allais devoir dormir dans ma tente. Et je savais pas encore si j'allais dormir dans la nature. Et j'avais prévu quand même, si je pouvais dormir plus dans des temples, c'était plus sécure parce que il faut savoir qu'en Asie, c'est très très difficile de trouver un endroit même dans la nature sans qu'il y ait personne. Et quand tu fais du camping sauvage en Asie qui n'est pas forcément autorisé, au Cambodge non plus, le mieux c'est d'être dans un endroit qui est caché. En fait, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui te trouve dans la nuit, et puis les Asiatiques sont hyper curieux. Le mec, il voit une tente, il va t'ouvrir la tente, il va rentrer dedans, et ça va. Toi, t'es en train de dormir. Donc, le but c'était de trouver un endroit caché, mais c'est hyper dur en Asie de trouver un endroit caché parce que en Asie c'est vraiment dur de trouver un endroit où il n'y a personne. À chaque fois que j'ai planté ma tente, j'ai trouvé quelqu'un qui sortait de la pampa parce que les mecs vont cueillir des murs. Donc voilà. Et donc pour revenir, je me suis un peu perdu. Pour revenir, le premier soir, je marche et je vais dormir dans. Je trouve un temple sur le chemin. En fait, c'est un temple vipassana, c'est un temple de méditation. Donc il y a quand même des touristes qui viennent des fois pour pratiquer la méditation et tout, qui s'appelle vipassana. Et je vais demander si je peux dormir ici et tout. Donc hyper gentil. Le manager du temple, t'as toujours un espèce de manager, c'est un peu le moine principal, celui qui s'occupe du temple, qui me dit pas de soucis, tu peux dormir et tout. Et c'était le seul qui parle anglais. Et je me suis retrouvé donc à dormir là. Et en fait, je suis resté donc une nuit ici, mais je me suis super bien entendu. Il y avait plein de petits moines, en fait, c'était plein d'enfants. Et du coup, je me suis retrouvé à jouer avec eux toute la nuit et tout, à jouer toute la soirée avec eux. Donc c'était hyper drôle, à jouer du ukulélé avec eux. Donc c'était vraiment vraiment cool, je me suis retrouvé avec eux, j'aurais bien aimé rester plus longtemps avec eux mais je pouvais pas, il fallait que je continue à marcher. Mais du coup hyper sympa, hyper chaleureux, j'ai dormi avec les petits moines et tout qui voulaient à tout prix dormir dans ma tente. Mais bon, il faisait déjà 50 degrés dans ma tente, c'était pas possible, je leur ai dit désolé mais on va pas dormir à 4 dans ma tente, une place parce que là déjà que je meurs. Et le lendemain, donc ils m'ont offert la nourriture même gratuitement et tout, ils m'ont permis de manger le matin et tout ça, ils m'ont dit au revoir, ils m'ont raccompagné jusqu'à la grande route. Et j'ai continué la marche. J'ai essayé de partir le plus tôt possible le matin parce qu'il faisait vraiment chaud, il faisait vraiment chaud. Et même dès le matin, les températures montaient rapidement à 38 degrés, même à Londres. Donc voilà. Donc je continue à marcher. J'avance tranquillement. Dès que je peux, je m'arrête dans une guest house, dès qu'il y a une espèce de petit village, une petite ville pour me reposer, prendre une douche. Et il y a eu des moments, du coup, où je me retrouvais un peu complètement au milieu nulle part, où la nuit tombait, j'étais obligé de m'installer. Et c'était ces moments-là où il n'y avait ni de temple, ni de guest house, où je devais trouver un endroit dans les rizières pour planter ma tente. Et là, c'était un peu les premières fois, en fait, que je faisais vraiment du camping sauvage en Asie. Et il faisait vraiment chaud, pas beaucoup d'aération dans la tente. Clairement, je suais, mais j'étais vraiment mouillé dans la tente. Je crois que la nuit, il devait faire 45 degrés dans ma tente. J'étais vraiment en sueur, c'était vraiment dur de dormir. Mais ça faisait du bien, c'était vraiment cool de dormir en plein milieu de la nature et tout. Au début, quand t'es pas habitué, t'as peur d'un peu tous les bruits que t'entends, un bruit de palmier et tout, tu travailles dans la nuit. Ah merde, qu'est-ce qui se passe ? T'entends des bruits, tout ça. Puis le matin, à 5h du mat', toi, t'es en train de dormir. Puis là, t'as un chien qui t'aboie à 2 mm de la figure. Tu vois, oh là là, qui te réveille comme ça. Toi, t'es en sursaut. Des trucs un peu comme ça. Mais bon, c'est les réveils matinaux qui font plaisir en Asie. Et puis quand je pouvais, sinon aussi, je demandais à quand je voyais une maison quoi, à dormir dans le jardin. Ça permettait de pouvoir dormir dans une maison, d'être un peu plus protégé, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne me réveiller au milieu de la nuit. Et par exemple, une nuit, je marchais un peu au milieu de nulle part et tout, puis je vois une maison, je m'arrête. Bon, ils parlaient pas anglais, mais j'arrive à me débrouiller, je leur montre une photo et tout, je leur explique que j'ai ma tente, je vais pas les déranger, tout ça, je leur demande pas de nourriture, rien. Juste, j'installe ma tente dans le jardin. Et au début, ils me disent oui, un peu et tout. Mais un peu bizarre, pour une fois, pas très très accueillant. Je me dis, j'ai pas le choix, la nuit en train de tomber, j'installe ma tente, tout ça. Et puis, t'as le chef de famille un peu qui arrive et tout, qui me regarde un peu bizarrement. Je sens que c'est un peu tendu. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Le mec me regarde. Et fait un espèce de signe avec les mains comme un arc en me pointant vers moi. Très bizarre, tu vois, très bizarre. Je me dis, au final, j'étais dans ma tente en train de dormir et tout. Puis là, un mec qui toque à ma tente, et c'était en fait ce mec-là, et qui j'ouvre ma tente et qui me tend un micro. Il me tend un micro et il me dit karaoké, karaoké, comme ça. Et moi, je comprends pas, le mec, 10 minutes auparavant, il me menaçait et tout. Il me dit karaoké, karaoké. Je dis, bon, d'accord, mec, je me retrouve dans le patio de la maison. C'était une petite cabane. Et les mecs avaient pris du poisson un peu, ils sont en train de faire le repas. Et en fait, les mecs hyper sympas, ils m'invitent tous à manger avec eux et tout. Et je me retrouve en fait à chanter un karaoké avec les mecs et tout. On sait jamais ce qui se passe. En fait, c'est pour ça qu'il faut pas juger forcément rapidement les gens. En fait, le mec était hyper amical. Je me suis retrouvé à passer toute la soirée avec eux et tout, et à chanter karaoké. Donc j'ai pu, pour la première fois, chanter France Gall du Gainsbourg et tout. Ils m'ont laissé chanter des chansons françaises parce que je pouvais pas chanter du cambodgien. Mais du coup, j'ai passé à me bourrer la gueule avec des bières et à chanter karaoké toute la nuit avec eux. Bon, le matin, c'est le réveil a été difficile du coup, mais du coup voilà, hyper drôle. Du coup voilà, après je continue à marcher. Il fallait quand même je me dépêche, j'avais pris un peu de retard à ce moment là je crois que j'étais à peu près à la moitié du chemin. En fait, ce qui était drôle quand même, et ce qui m'a vraiment permis de pouvoir faire cette expérience, c'est les Cambodgiens qui m'ont vraiment surpris, parce que pour avoir voyagé en Asie, je pense que ça a été quand même un des peuples les plus gentils, les plus aimables que j'ai rencontrés. C'est-à-dire que j'avais un peu l'impression d'être un marathon ou un Tour de France. En fait, moi, je marchais, puis ils voyaient un mec, tu sais, ils n'étaient pas habitués, ils voyaient un mec marcher avec un sac à dos sous 40 degrés au bord de la route, toutes les voitures qui s'arrêtaient, tout ça. Et les mecs, à chaque fois, les Cambodgiens venaient me voir, ils parlaient juste une phrase anglaise, ils me disaient « Where are you going? Where are you going ?» Et moi, à chaque fois, je disais « Siem Reap, je suis Siem Reap. » Puis à ce moment-là, moi, j'étais encore à 250 km de Siem Reap, tu vois, il me dit « Mais tu vas en bus ?» Je dis « Non, je vais à pied. » Et puis, des fois, c'était trop drôle parce qu'il me regardait, il me regardait, tu vois, et puis il s'en allait. Puis il y en avait qui rigolaient, ils comprenaient pas, en fait. Parce que ici, tu pouvais prendre un bus pour faire Phnom Penh, Siem Reap, le bus coûte 3$, je crois. Donc il se disait, il est complètement con, enfin, pourquoi tu fais ça? Et à chaque fois, c'était un peu dur, je devais expliquer que je faisais ça pour un challenge, c'était un peu un challenge sportif, quoi. Mais eux, ils comprennent pas, parce qu'ils ont tous des scooters, bon, déjà la vie est dure pour eux, ils vont pas s'amuser à traverser tout le pays à pied, tu vois. Du coup, ils comprenaient pas à chaque fois, mais du coup, c'était vraiment, j'ai l'impression d'être dans un marathon autour de France, parce que je marchais, et puis t'avais des mecs qui venaient en courant me donner des bouteilles d'eau. Et puis ça m'arrivait presque tous les jours que des mecs courent pour m'offrir des bouteilles d'eau, et puis moi, je voulais les payer, tu sais, pour la bouteille d'eau. Impossible. Les mecs me disent non, vraiment on t'offre la bouteille d'eau, c'est pour toi, bon courage, tout ça, enfin incroyable, tu vois. Ou des gens qui venaient courir me donner de la nourriture gratuitement. Il faut savoir que le Cambodge, c'est quand même très très pauvre, mais impossible de les payer, tu vois. Mais vraiment hyper gentils les gens, avec vraiment un cœur immense. Donc pas mal de fois quand j'étais dans les temples où les gens me donnaient de la nourriture gratuitement. Contrairement à ce que je pensais, en fait le plus difficile, ça a été que tous les jours sans exception, surtout le matin, il y avait minimum 5 voitures qui s'arrêtaient pour me demander si je voulais monter avec eux pour aller jusqu'à Siem Reap. Alors que je faisais pas de stop, pas de signe, rien, mais qui me voyaient marcher sur le bord de la route, ils croyaient que j'avais un problème avec mon scoot ou quoi, et qui s'arrêtaient pour me dire « bon, on monte dans la voiture et tout ». Et c'était très difficile pour le mental, c'est plus difficile parce que tous les jours j'étais obligé de dire non. Les gens me disaient « bon, monte avec moi, dans 3 heures on est à Siem Reap ». Alors que moi, je savais qu'il me restait encore 20 jours de marche, tu vois, sous 40 degrés, à marcher, à avoir mal aux genoux et tout. Et puis, le mec disait, c'est bon, monte avec moi et tout. T'as un peu l'impression, t'as envie de dire oui, tu vois. Et tu dis, non, il faut que je continue mon challenge. Et du coup, je disais non aux gens, mais ils comprenaient pas. Ils disaient, pourquoi tu dis non? Il me disait, mais t'inquiète pas, je te demanderai pas d'argent, c'est gratuit, tu vois. Et j'étais obligé de leur expliquer à chaque fois, de leur dire, non, vraiment, c'est un challenge, merci beaucoup, mais c'est un challenge, je dois marcher, tout ça. Et puis, il me disait, ah, d'accord, pas de souci, tout ça. Mais c'était vraiment pour dire à quel point les gens sont gentils, c'est que tous les jours, t'avais minimum 5 voitures, 5 scouts qui s'arrêtaient pour me dire monte avec moi jusqu'à Siem Reap, pas d'argent, rien, c'est gratuit. Donc je continue à marcher, je me rapproche de plus en plus de la fin. Le truc qui était pas mal difficile quand même, c'est que à 100 jours de repos, mon genou, j'avais une blessure apparemment, mon genou gauche, qui commençait à me faire pas mal au fur et à mesure des jours, et je me disais bon, j'espère que j'arrive quand même bientôt. Ouais, il y a eu des jours qui ont été difficiles, où quand je démarrais un peu trop tard le matin, je me retrouvais le soir à marcher, et c'était un peu souvent les jours où je savais qu'à la fin, j'avais le but d'aller dormir dans une guest house. J'avais vu sur ma map qu'il y avait une guest house aller à 17 km de là où j'étais. Je me dis bon, aujourd'hui je fais les 17-18 km parce que je veux dormir dans la guest house, je veux prendre ma douche, je veux me reposer, tu vois. C'était un peu ce but de dire bon, allez, je marche les 18 km, ce soir je mets guest house. Et puis à la fin, quand t'arrives, tu vois, souvent le palier des 12 km, où tu commences vraiment, c'est un peu comme le mur pour ceux qui font des marathons, c'est un peu là où tu commences vraiment à douiller, tu vois, où vraiment, niveau mental, niveau physique, ça fait mal. Mais tu te dis, ouais, faut que j'avance, parce que j'ai la guest house à la fin. Et puis le plus dur quand même, c'était quand même le matin de se dire bon, tu repars. Puis quand par exemple tu dors la nuit dans ta tente, tu dors pas bien, bon, c'est un peu difficile et t'as pas de, de repos en fait. Tu dis bon, le lendemain, bah tu repars à 5h du mat, tu recommences à marcher. Donc ça c'était un peu plus dur. Et puis avec l'hygiène aussi, quand t'es pas habitué, tu ressens ce que ça fait de vraiment puer, quoi. Tu vois, tu marches, t'es avec les gens, puis tu sens que vraiment tu sens pas bon. Tu vois, ça fait deux jours que t'as pas pris de douche, tu transpires comme pas possible quand tu marches avec ton sac sur le truc. Ça fait bizarre cette sensation de te dire bon, t'es pas propre, quoi, vraiment niveau hygiène, de te sentir, tu sens des endroits, tu te dis, tu pensais jamais que c'était possible, tu vois. Je pense que ça a été, ouais, ça a été niveau physique et mental, ça a été l'expérience la plus difficile que j'ai pu faire. Mais aucun regret, parce que souvent, en fait, quand je rencontrais des Cambodgiens et tout, donc tous les jours, quand je rencontrais des Cambodgiens, à chaque fois, c'était la même question. Why? Pourquoi tu marches? Pourquoi tu prends pas un bus? Et en fait, à chaque fois, je leur disais que chacun voyage comme il veut, mais le truc avec le bus, c'est que, par exemple, le Cambodge, c'est petit. Donc, par exemple, quand tu veux faire Phnom Penh, Siem Reap, en bus, tu le fais en quelques heures, tu vois. En quelques heures, tu traverses tout le Cambodge pour aller à Siem Reap. Le truc, c'est que dans le bus, donc, il va à fond la caisse, tu vois rien, en fait. Entre Siem Reap et Phnom Penh, la capitale, tu loupes tout ce qu'il y a entre les deux villes, et les gens dans les grandes villes, donc là où il y a beaucoup de touristes, sont forcément très différents des gens que tu vas rencontrer à la campagne. Les gens viennent te voir, les gens sont là pour t'aider, mais ils savent qu'ils n'ont pas d'argent de toi, ils font ça que par gentillesse, tu vois. Ils viennent te donner de la nourriture gratuitement, t'essaies même de les payer, ils disent non, ils t'offrent le gîte, ils t'offrent tout, ils viennent juste te parler, juste pour te dire bonjour, tu vois, juste pour te dire bonjour, ils sont hyper contents, tu vois. Mais tout ça vraiment sans le fil de l'argent, tout ça juste pour être gentil. Et le truc en bus, c'est qu'après, tu passes à côté de tout ça. Et je m'étais dit, en marche, plus t'es lent, moins t'es autonome, en fait, plus t'as besoin des autres. Quand t'es à pied, quand t'es à vélo, t'as des problèmes avec ton vélo, t'as des problèmes à pied, il faut que tu trouves un endroit pour dormir et tout. T'es obligé, t'as pas le choix. T'as pas le choix, t'es obligé d'avoir recours aux locaux. Et c'est là, en fait, où tu vas faire les meilleures rencontres, où tu vas rencontrer les gens qui, au final, vont être extraordinaires, vont être là pour t'aider. Ça va toujours bien se passer, ça va toujours bien se finir. Parce que t'es pas autonome, tu peux pas te reposer sur tes lauriers et te dire bon, j'ai pas besoin d'aller voir les gens, je peux rester avec ma moto, mon truc et tout. Bon, c'est pas, moi, je voyage à moto, c'est hyper bien, tu vois. C'est juste deux façons de voyager qui sont complètement différentes. Et pour avoir fait ce voyage et tout, je regrette pas, parce que j'ai rencontré des gens qui vraiment étaient extraordinaires, quoi. Enfin, des fois t'es embarrassé, tu vois. Toi, tu te dis, tu viens de l'argent et tout, les gens ils vivent à 8 dans une cabane en bois sur le même lit et ils ont à peine de quoi bouffer, les mecs ils veulent t'offrir de la nourriture. Et ils te disent, toi, impossible de les payer, ils veulent pas te laisser payer, tu vois. Toi, t'es embarrassé, pas mal de fois, j'étais embarrassé. Mais les gens ont vraiment, vraiment un grand cœur, et je regrette pas pour toutes les rencontres que j'ai pu faire, tous les Cambodgiens que j'ai pu voir. C'est quelque chose que je regrette pas, et si je peux dire, ouais, si je peux motiver un peu, il y a plein de moyens, que ce soit à vélo, en stop, à pied, qui permettent vraiment de se retrouver avec les locaux et de découvrir vraiment la culture locale. Quand tu dors dans les temples et tout, ça te permet de voir la religion, de vivre avec les moines, de manger avec eux. Tous les matins, j'assistais à la prière avec eux. Il y avait des matins, j'étais pas content quand ils me réveillaient à 4h du matin. Moi, j'étais hyper fatigué, ils me réveillaient à 4h du matin. Hey Hugo, faut aller prier Hugo. Voilà. Tu merde, non. Du coup, okay, tu te mets en position lotus, bam, une heure de prière. Mais c'est vraiment, t'es vraiment imprégné de la vraie culture locale. Sans ce fil de l'argent, des gens qui sont vraiment là pour, ils sont heureux de te montrer quelle est leur vie, quelle est leur culture, ce en quoi ils croient, et ils sont là pour t'aider. Donc si je peux encourager, ouais, les gens à faire ça. Et puis même quand on n'est pas habitué, tout ça, en fait ça se fait tout seul, parce que t'es un peu obligé, t'as pas le choix, t'es un peu dos au mur. Il y a des fois où t'es obligé d'aller demander un temple pour aller dormir, parce que sinon tu dors dans la rue, enfin sur le bord de la route, t'es obligé. Donc ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Et quand tu fais ça une fois, que ce soit du stop, du vélo, n'importe quoi, après tu peux plus t'en passer. Après tu prends plus de bus, tu peux plus t'en passer, tu tombes accro à ça. Tu tombes accro à l'amour que les gens peuvent t'apporter quand tu voyages comme ça, et puis au dépassement de soi. Du coup, après, je suis le dernier temple où j'ai dormi, pareil, avant d'arriver à Siem Reap. Donc c'était ma dernière journée avant d'arriver à Siem Reap. En fait, je marchais sur le bord de la route. Et un scooter, ils étaient trois sur le scooter avec un moine qui était à l'arrière, qui se sont arrêtés et qui m'ont vu. Le moine est venu me parler, il me dit bon, pourquoi tu marches, tout ça. Il me dit monte sur le scooter avec moi. Donc on s'est retrouvé à quatre sur le scooter avec mon sac, moi, à me raccrocher au moine, à tenir à la taille le moine pour pas tomber en arrière et tout, hyper sensuel, quoi. pour pas me casser la gueule à l'arrière. Et puis ce qu'il me dit, viens manger avec nous, on t'offre le repas pour manger avec nous ce midi au temple. Donc ils m'ont amené jusqu'au temple pour scooter. Donc ils m'ont offert la nourriture. Et du coup, c'était parfait. Je cherchais un endroit pour dormir. Il n'y avait pas de guest house jusqu'à Siem Reap. Et du coup, ils m'ont dit, bon, mais tu peux dormir ici. Il est hyper cool. Et ils ont déménagé d'autres moines qui dormaient dans une pièce. Ils m'ont laissé la pièce pour moi tout seul avec le ventilo, le truc et tout. Le lit, bon, quand c'est un lit, c'est une planche en bois. Mais pour eux, c'est un lit. T'es bien content d'avoir ça. Et donc, avec ça, tout ça, ils m'ont offert les repas, les trucs et tout. Ils m'ont laissé la chambre. Et puis, toute la nuit à parler avec eux. Je me suis permis d'entendre avec eux. J'ai gardé contact. D'ailleurs, t'as encore le moine qui m'envoie des messages tous les jours pour me dire « Ah, where are you, Hugo? Where are you? No !» J'ai envoyé un message tout à l'heure pour lui dire que j'étais arrivé en France. Et du coup, c'était parfait de finir cette dernière soirée à dormir dans un temps. Et le lendemain même, il voulait à tout prix, au début, il voulait à tout prix m'emmener en scout à Siem Reap, mais je leur ai dit « Je veux vraiment marcher jusqu'à Siem Reap pour faire l'entrée de la ville à pied pour me dire « Yes, quoi, je l'ai fait, tu vois. » Et du coup, ils m'ont juste emmené en scout jusqu'à la route principale pour que je puisse marcher. Et après, j'ai marché, il me restait 14 km. Jusqu'aux portes de la ville, et puis j'ai marché, et puis là je suis arrivé aux portes de la ville, puis là je me rappelle, je suis arrivé aux portes de la ville, j'ai vu que j'étais arrivé enfin à Siem Reap après 22 jours de marche, je l'ai fait en 22 jours de marche, et puis là j'avais mon sac sur le dos, j'ai balancé mon sac par terre, j'étais en plein milieu de la route, c'était la route principale de l'entrée de la ville, puis moi j'étais sur le bord, je balance mon sac comme ça, j'avais une bouteille d'eau pleine, je me mets à genoux comme ça, je me fous l'eau sur partout, puis tous les gens qui me regardent, ils les foutent, puis je commence à gueuler, je fais « Yes, je l'ai fait, j'ai réussi, je l'ai fait, j'ai rejoint !» Puis je gueule dans toute la rue, tu vois, j'étais fou, je me dis « J'ai fini enfin, que je voyais pas la fin, tu vois. » Et j'étais enfin à Siem Reap, je suis resté juste pour voir les temples encore, et après je suis parti vers Bangkok, donc ça c'est fini là, donc j'ai pris, mon visa était fini, j'étais resté quelques jours à Phnom Penh, j'ai pris 22 jours pour faire, donc j'ai fait, si je m'en souviens, 329 km, je crois. Entre les deux, en suivant la route principale, jusqu'à Siem Reap. Voilà, et c'était fini. Plein de souvenirs, des gens extraordinaires que j'ai rencontrés qui ont pu m'aider. En fait, je pense que j'aurais pas pu faire ça sans les Cambodgiens, en fait. En fait, si j'avais été tout seul, des fois où je me trouvais sans nourriture, sans logement et tout, sans les Cambodgiens, j'aurais pas pu le faire, en fait. En fait, c'est eux qui m'ont vraiment permis de faire ça. Tout seul, ça aurait été vraiment dur. Et puis là, de voir des gens tous les jours qui étaient là pour t'encourager, pour me dire... pour t'offrir la nourriture et tout, c'est vraiment été, ouais, si je dois dire, c'est vraiment grâce au Cambodgien aussi que j'ai pu le faire. Voilà, et après je suis parti pour Bangkok et c'était la dernière grosse aventure de mon voyage. Voilà, voilà.
Merci beaucoup pour ce récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
J'ai un peu hésité entre le Laos à vélo et le Cambodge à pied. Déjà, c'est le dernier gros voyage que j'ai fait. Et oui, niveau... Ce qui m'a décidé, c'était surtout niveau relation que j'ai eu avec les locaux. Pour moi, ça a été une des plus touchantes que j'ai eues de mon voyage. Du coup, c'était vraiment celle que je voulais raconter parce que ouais, c'est là où j'ai fait les meilleures rencontres. J'ai eu vraiment une bonne relation avec les locaux et c'est des rencontres qui m'ont vraiment touché. Donc ouais, c'était pour ça.
Est-ce que tu penses que tu pourras à nouveau voyager normalement, on va dire, après des expériences pareilles ?
Jamais. Jamais. Je peux plus. J'ai pas pris de bus depuis longtemps. Après ça, tu peux plus parce que si tu reprends un bus ou si tu revoyages, ce qu'on peut dire normalement, après chacun voyage comme il veut, t'as cette voix dans ta tête qui dit non, prends la voie de la difficulté. Toujours un peu, surtout ce dépassement de soi, toujours ce challenge. Je suis un peu accro au challenge et dire toujours trouver des nouveaux challenges. De nouveaux moyens de voyager et surtout ouais, comme j'ai dit, surtout la relation que tu parles avec les locaux, quand tu l'as déjà une fois, tout ça, comment t'as vu comment les gens sont avec toi, t'as envie de vraiment être au plus près des locaux, de les rencontrer, et quand t'es en bus tu peux pas, c'est pas possible, donc tu fais en sorte d'être avec eux au plus proche d'eux, ouais.
De manière générale, et pour se parler de tes voyages d'avant et futurs, est-ce que tu as un rituel avant de partir en voyage?
Non. En fait, c'était mon premier gros voyage. Je suis parti, j'avais 18 ans. Je venais de faire un an de médecine. J'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma vie, j'étais perdu. Je voulais même pas faire médecine, je savais pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bon, allez, je me lance. J'étais jamais parti sans mes parents, en fait. Et du coup, au début, un peu comme tout le monde, j'étais complètement stressé, je parlais pas un mot d'anglais. J'avais essayé, en fait, de complètement organiser mon voyage. C'est un peu ce que tout le monde fait quand tu fais ton premier voyage seul et tout. T'as envie de tout organiser, de tout prendre avec toi, de prendre toute ta chambre avec toi, d'organiser que ce soit n'importe quel transport, n'importe quel... Enfin, tout organiser. Et donc, au début, je partais un peu en me disant, j'organise tout mon voyage. Et j'ai fait, on va dire, une à deux semaines comme ça, en suivant le plan que je m'étais donné. Et je me suis dit, j'ai l'impression de pas être parti. Ça me tente pas, ça m'intéresse pas, ça j'aime pas ça. Il y a aucune excitation, rien. Ça me convenait pas. Je savais qu'il fallait que je voyage d'une manière différente. Et puis j'ai rencontré des gens qui voyageaient donc depuis beaucoup plus longtemps que moi et qui étaient qui voyageaient sans aucun plan en fait. Et au début, j'étais un peu réticent et puis je me suis dit allez, je vais tenter le truc. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de pousser à l'extrême, c'est-à-dire que j'ai donc au début un peu comme tout le monde, j'avais toutes les applications sur mon téléphone, Booking, Hostelworld, tous les trucs pour organiser, trucs de transport, tout. J'ai tout supprimé. J'ai supprimé toutes les applications de mon téléphone, j'ai jeté mon guide, j'ai tout jeté. Et je me suis dit maintenant on y va au jour le jour. Je me suis dit je suis plus d'itinéraire, rien. Et en fait, j'ai commencé à voyager en fonction des rencontres. C'est-à-dire que par exemple, j'étais dans un hostel, je parlais avec quelqu'un, il me disait « Ah, je suis allé là, c'était vraiment cool. » J'ai dit « Bon, mais j'y vais demain. » J'y vais demain, donc je partais demain dans l'endroit qui m'a dit que c'était cool. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré des locaux qui me disaient « Ouais, moi j'ai une maison là. » Et puis je suis... Et au final, t'as un peu l'impression que tu te dis « Si t'as pas d'itinéraire, tu vas te retrouver au milieu nulle part. » Mais en fait, non. La nature horreur du vide, du coup, t'as toujours quelque chose. T'as toujours quelque chose, puis même au final, t'as trop de choses. T'es obligé de faire des choix, même si t'as pas envie. Et au final, tu te retrouves. Ce qui est magique dans ce genre de truc, c'est que tu te retrouves à des endroits où t'avais jamais pensé. T'avais prévu un peu dans ta tête te retrouver là. Tu te retrouves complètement à l'opposé avec machin et truc, alors que c'était pas du tout prévu. Et en fait, c'est pour ça que tu voyages. C'est pour sortir de ta zone de confort, en fait. Et si vraiment tu veux sortir de ta zone de confort, c'est vraiment te découvrir toi-même, découvrir les autres. Pour moi, en tout cas, pour moi, ça a été le meilleur moyen, c'est de partir sans aucun plan. Donc, si je dois répondre à la question, quel est mon rituel? Aucun plan, aucune réservation, je suis au jour le jour, et c'est là les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est les choses qui sont arrivées sans qu'on les choses qui étaient pas prévues. Si on repense un peu aux meilleurs souvenirs qu'on a de nos vacances n'importe où, c'est un peu toujours c'est pas vraiment les trucs qu'on avait prévu de faire depuis longtemps, c'est un peu les trucs qui sont arrivés comme ça par un coup de chance, un coup de hasard, et on va se souvenir le plus tout au long de notre vie, on va se souvenir ce truc parce que waouh, c'est arrivé comme ça, je me suis retrouvé là. Et au final, j'ai décidé de partir comme ça. Donc, c'est un peu, ouais, le rituel, c'est rien. Rien, j'organise rien et voilà.
Quel est l'objet qui t'a jamais quitté ou qu'on trouvera toujours dans ton sac dans tes voyages futurs?
Pendant ce voyage, un peu, l'objet que j'avais toujours sur moi, et je me disais, c'est un peu vraiment, c'est même pas le passeport ou le téléphone que j'avais peur de perdre, c'était ça que je voulais vraiment pas perdre. J'ai acheté un bandana quand la première fois que je suis allé en Thaïlande. Et en fait, c'était un peu mon bandana porte-chance. Je l'avais tout sur moi et puis c'était parfait parce que quand il faisait chaud, le bandana, ça te couvre la tête, ça prend la transpiration, enfin parfait, truc parfait. Et c'était devenu un peu ma mascotte de mon voyage. Je l'avais toujours sur moi et dans le bus au Vietnam, je l'ai laissé dans le bus, je l'ai perdu. Et j'avais perdu mon portable au Myanmar quand je suis arrivé au Myanmar. Je me suis fait voler mon portable. Et j'étais beaucoup plus triste de perdre ce bandana que mon portable au final. Mais après, pendant le voyage, on apprend à plus du tout s'attacher aux choses qu'on a et à laisser partir les trucs et tout. T'es un peu triste au début et après tu dis bon, c'est pas grave.
Bon, un voyage comme ça, comment on le raconte et comment tu partageais ton voyage? Est-ce que tu tenais un carnet de bord? Est-ce que tu prends des photos? Comment tu documentes ton voyage?
Majoritairement sur Instagram, parce que j'ai un peu découvert une passion pour la photographie pendant ce voyage. Du coup, c'est un peu le meilleur réseau social pour partager les photos, tout ça de mon voyage. Pour pouvoir même communiquer, pour rester en contact avec les gens que je rencontrais au fur et à mesure du voyage. C'était avec les stories, tout ça. En fait, pendant mon voyage, j'ai pas mal de fois, même une anecdote, il y a un Autrichien que j'ai rencontré au Népal, avec qui je me suis très très bien entendu. Et en fait, grâce à Instagram, sur sa story, j'ai vu qu'il partait en Thaïlande après. Et moi, j'étais déjà en Thaïlande, j'étais à Bangkok. On s'est revus à Bangkok grâce à Instagram. Après, moi, je suis parti au Myanmar. Lui, il est parti au Laos, Cambodge, tout ça. Il est revenu au Myanmar. Moi, j'étais encore au Myanmar. Grâce aux stories, j'ai revu qu'il était au Myanmar. On s'est revu la troisième fois du voyage au Myanmar. Et après ça, on a décidé de voyager 2 mois ensemble. Et c'est ça qui était bien. Ça m'est arrivé beaucoup de fois pendant mon voyage, grâce aux stories, grâce à Instagram, de retrouver des gens avec qui j'ai déjà rencontré 3 mois plus tôt, de les retrouver sur la route, en fait, en Asie. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé Instagram pour ça. Donc voilà, après, j'ai ouvert un blog pendant mon voyage. Donc j'ai essayé de tenir le blog. Après, c'était difficile le blog parce que quand t'es en sac à dos, à vélo, tout ça, que t'as pas de wifi, t'es au milieu de bon, rien, c'était un peu difficile. Donc là, je vais me remettre dans le blog là, maintenant que je suis rentré en France. Mais j'écris quelques articles et tout, donc il y avait le blog. Et voilà, sinon c'était ça. Après, je filmais aussi pour faire une vidéo quand je rentre. Mais sinon, surtout Instagram, c'était là où je documentais le voyage, ouais.
Je rebondis sur ta rencontre avec l'Autrichien et de manière générale, comment tu considères tes rencontres en voyage? Est-ce que ça va être des amitiés un petit peu éphémères que tu vas vivre à fond ou est-ce que tu gardes contact avec les gens que tu as rencontrés?
Je dirais qu'en fait, il y a deux types de rencontres complètement différentes. Quand tu voyages seul, déjà, tu rencontres énormément de gens. Même les gens qui disent « Ah, mais tu voyages seul, t'as pas peur d'être trop souvent seul. » Au final, t'es moins souvent seul quand tu voyages seul. Enfin, c'est dur d'être seul, parce que quand tu voyages seul, tout le monde vient te voir et tout. Et t'as deux types de rencontres. En fait, t'as un peu les toutes les rencontres que tu fais. Tous les jours, tu fais des rencontres, mais t'as des rencontres, par exemple, que tu vas faire sur 10 minutes. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas parler avec lui 10 minutes, tu vas plus jamais le revoir de ta vie. C'est des rencontres que, bon, là, maintenant, dans 6 mois, j'aurais oublié, quoi. J'aurais oublié, même si c'était très cool, je vais pas forcément y penser. Donc, t'as ce type de rencontres. Tous les jours, tu fais des nouvelles rencontres avec des gens avec qui tu vas discuter un peu, parler un peu. C'est des rencontres éphémères, mais ce qui est bien avec le voyage complètement différent de quand t'es en France, tout ça, c'est que avec ces rencontres, tu vas directement au but. En fait, tu sais déjà de base, quand tu rencontres la personne, que tu vas pas revoir cette personne, normalement, tu reverras pas. Ce qui est bien, c'est que ça élimine tout un masque. Tu vas directement au fond de la chose avec la personne. Tu dis ce que t'as à dire, c'est ça que j'ai vraiment aimé, et aussi apprendre à se détacher, à être capable de se dire que tout n'est qu'éphémère. Donc tu rencontres quelqu'un, tu sais que dans un jour, cette personne, tu la reverras plus. Mais tu l'acceptes, tu te dis, t'es plus triste de l'avoir quitté, t'es plus content de l'avoir rencontré. Tu vois les choses sous un autre angle, tu vois. T'as du coup toutes ces rencontres que tu fais tous les jours, mais qui vont pas forcément te marquer, c'est des rencontres que tu fais. Et t'as d'autres types de rencontres, comme celle que j'ai faite avec l'Autrichien. Et ça a été pour moi, si je dois résumer vraiment le truc qui a vraiment changé ma vie dans ce voyage, c'est les rencontres. C'est, on va dire que sur aller un an de voyage, j'ai dû faire 20 rencontres qui ont complètement changé ma vie. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un, tu restes quand même un minimum avec la personne, que ce soit une, deux semaines, un mois, pour pouvoir bien sûr vraiment apprendre à connaître la personne. Et il y a eu comme ça des rencontres dans tous les pays qui ont vraiment changé complètement ma façon de voir les choses, ma relation avec les autres, ma relation en général, comment je voyais les gens et tout. C'est un peu en voyage comme ça, tu rencontres un peu des gens à travers le monde, tu rencontres des gens qui sont très atypiques. C'est les rencontres qui m'ont le plus marqué, c'est des gens qui étaient complètement atypiques. Et je me suis retrouvé souvent, moi j'avais 18 ans, je me suis retrouvé des fois avec des gens qui avaient l'âge de mes parents, mais je me suis retrouvé deux semaines avec eux à voyager, et puis des gens qui avaient au final le même mindset que moi, et un peu des gamins coincés dans des corps d'adultes, tu vois, mais des gens complètement atypiques, mais qui changent complètement ta vision des choses. J'étais resté en Thaïlande avec un mec qui avait 40 ans, et on était à Bangkok comme ça, et puis le mec était toujours avec un petit VTT. Comme ça, il faisait des wheeling à Bangkok et tout. Puis il sifflait avec tout le monde et tout. Enfin, il était hyper drôle, mais il se comportait comme un mec de 16 ans, tu vois. Il avait pas peur du regard des autres. Et ça a été, par exemple, une des rencontres qui a changé complètement ma façon de voir les choses sur le regard des autres, tu vois. Et pour plein de choses comme ça, il y a des gens comme ça qui ont complètement changé ma vie, juste en les écoutant, en apprenant à les écouter, et voir comment eux voyaient la vie, et tirer un maximum de ces gens-là. Ce qu'ils peuvent te donner, ce que toi tu peux leur donner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été extraordinaire dans mon voyage. Et ce que je dois retenir dans mon voyage, c'est vraiment ça. Ouais.
Bon, alors je suis vraiment content parce que j'ai l'impression de te cueillir vraiment à la sortie de l'avion. Parce que tu m'as confié en micro que tu venais juste de rentrer d'un an de voyage. Comment tu te sens et est-ce que t'as déjà une espèce de blues Tu penses à quoi en ce moment?
Ben, je savais que ça allait être vraiment bizarre. C'est même pas descriptible. C'est, ouais, là, je viens juste de sortir de l'avion. Je m'attendais à ce que ça soit pire. En même temps, je suis content, je sais que je vais retrouver ma famille, tout ça, je suis content. Mais ça fait bizarre d'être à Paris. Ça change beaucoup. Après, on s'adapte rapidement. Je sais que dans quelques semaines, je vais me réadapter. Mais je pense que là, en fait, je peux pas vraiment te dire parce que je pense que le plus marquant, ça va être quand je vais retrouver ma vie d'avant, en fait. Je sais que pour avoir parlé avec beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans mon voyage et qui sont entre-temps rentrés après un long voyage, ils m'ont dit qu'en fait, tous m'ont dit la même chose, ils m'ont dit que le plus difficile souvent, c'était que toi, pendant un voyage comme ça, forcément tu changes beaucoup ta façon de voir des choses, tout ça, t'évolues beaucoup, et que quand tu rentres dans ta vie précédente, quand tu reviens, que ce soit ta famille, tes amis, ces gens-là, en fait, et ta vie, là, n'a pas changé, en fait, rien n'a changé. C'est comme si toi, tu partais un an, t'évoluais, moi là, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis parti, c'est hyper bizarre, ça fait l'impression que ça faisait 10 ans, alors que ça fait 10 mois. Et quand tu rentres, c'est comme si tout était resté en pause. Tu revenais et en fait, rien n'a changé en fait. Et je sais que ça va être difficile. Mais pour l'instant, à Paris, là, je sens pas encore vraiment le truc. Mais je sais que quand je vais revenir, ça va faire bizarre.
Pour se parler du futur, justement, ça peut être une manière de soigner cette espèce de décalage, hein, de penser à tes futurs projets. C'est quoi les endroits où tu aimerais aller?
Sûrement partir en Australie déjà pour un PVT, pour pouvoir travailler. Faire de l'argent un peu. Après, je veux continuer mon blog, vraiment m'y mettre dedans. continuer Instagram. Et après, oui, j'ai des petits projets au niveau de... Je voudrais lancer des documentaires. Et j'ai pu, pendant ce voyage, avec tous les pays que j'ai fait, enfin, tous les pays, j'en ai fait que 5, mais avec les pays que j'ai fait, à chaque fois tester le sport local et rester plus ou moins longtemps avec dans un gym, ça te permet vraiment d'être au plus proche de la culture du pays. C'est des, dans ces sports-là, dans les arts martiaux, c'est des gens qui sont très très proches de la culture du pays, très attachés aux traditions. Ça te permet vraiment de découvrir la culture, la tradition, puis de découvrir le sport aussi. Il y a des arts martiaux qui sont magnifiques, des combats que tu vois qui sont magnifiques. Et donc c'est un truc que j'aime bien documenter, montrer un peu cet aspect à travers le voyage, à travers les arts martiaux, surtout que souvent, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens les plus aimables, les plus respectueux que j'ai rencontrés, c'était sur un ring. Au final, c'est des gens qui sont hyper respectueux, qui peuvent faire mal, mais qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui sont très respectueux, très aimables. Et j'aime bien montrer, oui, le voyage par rapport à ça. Et je sais que dans le futur, déjà... Le prochain pays que je veux faire un pays froid parce que j'en ai marre des 50 degrés de suer comme un cochon toute la journée. J'aimerais bien faire peut-être l'Islande, partir en Antarctique, un truc vraiment froid là parce que je commence à en avoir marre un peu de la chaleur. Mais ouais.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Voilà, c'est un petit espace à toi qui t'est réservé. Donc, est-ce que tu as une anecdote, une recommandation, un proverbe à partager ? C'est à toi.
Ce que je voudrais vraiment partager, si ça peut aussi motiver certaines personnes. Je peux dire qu'avant que je parte, j'étais un peu complètement l'opposé de ce que je pense être maintenant. J'étais dépressif et je détestais tout le monde. C'est l'ego qui parlait pour moi, je me disais j'ai besoin de personne, j'aimais être seul, tous les gens me veulent que du mal, je suis mieux tout seul, je rencontrais jamais de nouvelles personnes, je me renfermais complètement sur moi-même. Il y avait que mes amis vraiment proches qui savaient que au fond, qui me connaissaient au fond, qui pouvaient rester avec moi, mais même pour eux des fois ça pouvait être nocif. Et en étant nocif pour les autres, j'étais le plus nocif même pour moi-même. Et ce voyage, ça m'a permis de m'ouvrir complètement aux autres, de complètement apprendre à aimer les gens qui m'entouraient. Et découvrir, pour avoir fait les deux côtés maintenant, d'un côté où j'étais complètement à l'opposé, où j'étais triste, seul, dépressif. On ne peut pas trouver le bonheur, ce qu'on peut appeler le bonheur, sans le partager. Mais juste le fait, par exemple, de sortir et de sourire à quelqu'un. Et j'ai appris à sourire, j'ai appris à aimer sourire. Je peux dire que s'il y a des gens qui se reconnaissent un peu dans cet état d'esprit que j'ai pu vivre avant, je pense que le voyage peut être quelque chose de très bénéfique pour ces gens-là, qui se disent alors que le voyage serait peut-être la dernière chose qu'ils voudraient faire, mais partir seul et avoir à parler aux gens et à découvrir les gens, ça peut être quelque chose qui peut changer une vie et qui pour moi a changé complètement ma façon de voir les choses.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur.